France Inter, le 18-20.
Et vous savez comment ça se passe dans les familles, dans la vôtre? C'est peut-être pareil. Au début, c'est que je t'aime, je te promets. Et puis quand vient l'heure de l'héritage, l'envie prend le dessus. Et si je veux, j'oublierai ton nom. Tout ça ne se passe pas que chez les chanteurs. Les familles aujourd'hui ne sont pas toutes 100%. Elles sont souvent composées, décomposées, recomposées, ce qui multiplie les chances de finir au tribunal. Et même quand il y a de l'amour, on peut vite se retrouver les bras en croix dans l'héritage, dans la succession. Rien n'est jamais simple. On en vient presque à souhaiter de n'être le fils de personne. Alors, faut-il faire un testament? Peut-on oublier ses enfants, préférer sa nièce à son neveu? Un testament vers qui? Peut-on faire une avance sur héritage? Comment ça se passe? La donation de son vivant, une assurance vie, est-ce qu'elle est dans l'héritage? Peut-on protéger ses enfants par crainte d'un héritage dilapidé? Puis, qu'est-ce qui se passe si on refuse son héritage? Comment se prémunir de n'hériter que de dettes? C'est à vous de jouer. Allumez le feu.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Marie-Christine, c'est vous qui commencez. Bonsoir Marie-Christine, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de m'entendre. Quand j'ai entendu le thème de l'émission de ce soir, ça m'a tout de suite fait réagir parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques mois. Ma maman est encore là et c'était un décès absolument imprévu. Et du coup, on s'est retrouvés très rapidement chez le notaire pour décider du partage de la maison. Et je m'interroge plus d'un point de vue moral, voire philosophique, que d'une question purement juridique. Mm-hmm. Je dirais que je me suis presque sentie illégitime dans le fait d'hériter d'une partie du patrimoine de mon papa. Je considère que mes parents ont travaillé toute leur vie pour se constituer ce patrimoine et que je ne vois pas pourquoi ma maman ne pourrait pas en disposer de façon intégrale et claquer tout son pognon si elle a envie. Pour finir ses jours comme elle en a envie. Mais en tout cas, voilà, je ne vois pas quelles sont les racines de cette obligation pour des parents de léguer une partie de leur patrimoine à leurs enfants.
Et merci beaucoup pour cette question qui entame bien le débat, Marie-Christine. Pour vous répondre et pour discuter avec nous jusqu'à 20h, Nathalie Suas, j'étais sûre que ça allait passer de travers. Vous êtes notaire, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Élodie Mulon, vous êtes avocate en droit de la famille. Qu'est-ce qu'on répond à Marie-Christine qui est peut-être un cas un peu particulier, mais après tout, effectivement, pourquoi sa mère n'aurait pas le droit d'avoir tout et de claquer son pognon si elle le veut?
Alors, il est évident que si Marie-Christine le souhaite, c'est ce qu'elle peut faire. Hein. Elle peut tout à fait permettre à sa maman de rester à la tête de tout. D'ailleurs, c'est ce que permet le code civil français. C'est-à-dire que lorsque une personne décède en laissant son conjoint et des enfants communs, le conjoint survivant a le droit de rester à la tête de tout. Et donc, par exemple, la maison, les enfants n'ont pas le droit, ou leurs créanciers, d'exiger la vente sans l'autorisation de la maman. Donc c'est quand même ce qui se passe. Donc certes, Marie-Christine a été appelée à la succession pour faire valoir ses droits, mais sa maman peut rester à la tête de tout. Mais attention, dans le cas de Marie-Christine, c'est un peu différent. C'est là le même père et la même mère. C'est une famille non recomposée. Mmh. Il en va complètement différemment lorsque ce n'est pas le même père ou la même mère, puisque bien évidemment, on n'héritera pas du dernier conjoint. Tandis que Marie-Christine, elle a vocation à recevoir ce que laissera sa maman et ce qu'elle aura recueilli de son père.
Et donc, dans l'hypothèse où on est dans une famille plus compliquée, si je puis dire, Élodie Mulon, ça se passe comment ?
Dans l'hypothèse où on est dans une famille plus compliquée, le conjoint survivant n'aura le droit qu'à une partie, ce qu'on appelle la quotité disponible, puisque la réserve est restée... Et réservé, comme son nom l'indique d'ailleurs, aux enfants.
Il faut une réserve pour les autres enfants, y compris ceux d'un mariage précédent, en fait, c'est ça l'idée.
Oui, alors c'est un peu compliqué. Si vous n'avez que des enfants communs, le conjoint survivant a le droit à une partie de la quotité disponible, mais il peut choisir entre un quart en pleine propriété ou l'intégralité en usufruit. En revanche, s'il y a des enfants qui ne sont pas nés du lit commun, d'accord, donc qui sont issus d'un premier lit, à ce moment-là, le conjoint survivant nécessairement ne pourra opter que pour un quart en pleine propriété. Sauf s'il y a eu des avantages matrimoniaux, je vais y arriver, faits entre le couple, puisque les époux doivent toujours, avant la succession, on devra liquider le régime matrimonial. Donc tout va dépendre si le régime matrimonial est un régime commun ou si le régime matrimonial est un régime séparatiste.
Mais dans tous les cas, le conjoint survivant, quand le défunt était propriétaire de sa résidence principale, a le droit de rester à vie au domicile. C'est ce qu'on appelle le droit viager au logement.
Alors, sauf s'il a été exhérédé.
Bien sûr. Et la loi, elle a coupé dans le vif. Quand il y a des enfants d'union différente, il suffit qu'il y en ait un. Le code civil prévoit un quart pour le conjoint survivant, le reste pour tous les enfants à égalité. Mais sur ce quart, le conjoint a le droit de rester quand même à vie dans la maison. Mais attention, on peut faire une donation au dernier dernier vivant.
Alors attendez, parce que mais ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que parce qu'on entend parler de cas de ce genre-là, si le mari meurt et que seule la mère reste, qu'on est dans une famille qui n'a pas été recomposée, décomposée, ça veut dire que quand on dit maintenant ma mère est en train de dilapider l'héritage, de fait, elle a le droit en fait.
Alors non, enfin ce qu'il y a, alors elle déjà la maman, elle ne peut pas vendre sans elle ne peut pas procéder à la vente de la résidence principale ou même des autres biens sans l'accord des enfants. D'accord. En revanche, sur tout ce qui est sous liquidité, elle a ce qui s'appelle un quasi-usufruit. Donc effectivement, en théorie, elle peut le dépenser, mais à charge, nous dit le Code civil, de le rendre, il faut qu'on le retrouve dans sa succession. Donc soit...
Elle peut le dépenser, mais il faut le retrouver.
Oui, c'est-à-dire que si par exemple, sa part de maison à elle est suffisante pour désintéresser, entre guillemets, ses enfants, c'est valable. Mais en revanche, les enfants, si ce n'est pas le cas, peuvent demander des garanties pour que justement la mère, dans votre cas, ne dilapide pas le patrimoine. Il y a des possibilités de demander des garanties ou de blocage des comptes.
Alors c'est dans l'hypothèse où elle a choisi l'usufruit, pas si elle est en pleine propriété. Mais ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que disait Nathalie, qui est assez pervers dans le système, c'est qu'on peut... Alors qu'en principe, le conjoint survivant a un droit viager sur le domicile, le domicile conjugal, enfin, l'ancien domicile conjugal, l'époux peut exhéréder son épouse sans lui dire qu'il découvre ça au moment des ouvertures de
Exhéréder, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire déshériter, elle n'a pas ce droit.
Donc on peut, en ouvrant le testament, découvrir qu'il faut quoi, laisser la maison, vendre la maison
Oui, ça peut arriver.
Le conjoint survivant peut avoir zéro droit.
C'est un peu particulier dans notre droit. On peut déshériter son conjoint quand on a eu des enfants, avec lui ou sans lui. Quand on n'a pas d'enfants et qu'on laisse un conjoint survivant, il a de toute façon, quoi qu'il arrive, un quart de la succession. On dit qu'il est réservataire et le reste de la succession se partage entre les parents du défunt et les frères et sœurs. Alors, c'est assez singulier.
Voilà, laissez-moi comprendre avant de retourner au standard. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, on peut déshériter son époux ou son
épouse.
Alors,
s'il n'y a pas d'enfant, on ne peut pas le déshériter.
On ne peut pas,
c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que même si on ne l'aime plus du tout et qu'on n'a pas eu le temps de divorcer de lui, eh ben, même si on a fait un testament en disant « je te déshérite de tout », le conjoint survivant aura un quart, quoi qu'il arrive, de la succession en pleine propriété. On dit qu'il est réservataire. Dans les autres cas, c'est exactement ce que dit Maître Mulon, si on a eu des enfants, fût-il commun ou non commun, on peut le déshériter totalement. Mais les fois, on le voit, moi, chaque fois que je l'ai vu, c'était lorsqu'il y avait une instance en divorce qui s'éternisait. Et la personne, moi, venait me voir en me disant, moi, j'en ai assez, cette procédure de divorce va finir par me tuer, et donc je veux la déshériter pour qu'elle ne soit pas ma pour qu'elle ne mérite pas de moi.
Allez, je voudrais qu'on avance au 01 45 24 7000 et retrouver Martine. Bonsoir, Martine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Martine.
Alors, je voulais savoir quelle était la procédure à suivre lorsque il y a eu une renonciation à succession pour un héritier unique, en fait. Et il y a la renonciation date de 2 ans, enfin un peu moins. Donc voilà, comment procéder ?
Martine, pardonnez-moi, c'est le notaire qui c'est Nathalie Cousigou. Est-ce que la personne qui a renoncé avait des enfants ?
Non.
Non. Alors, dans ces cas-là, effectivement, comme il y a eu renonciation à la succession, eh bien, il faut aller chercher les héritiers, en fait, d'autres ordres. C'est-à-dire que, normalement, effectivement, une personne qui décède, c'est ses enfants qui héritent d'elle. Mais si ses enfants, là, en l'espèce, il n'y en avait qu'un, renoncent, il va falloir aller rechercher dans le second ordre, c'est-à-dire des parents... ou des frères et sœurs.
Mais est-ce qu'on peut renoncer, après avoir renoncé à une succession, se rétracter de cette renonciation ?
Oui, on peut toujours se rétracter tant que la succession n'a pas été acceptée par un héritier de rang, on dit subséquent, d'un autre ordre en fait.
C'est-à-dire les ascendants, les collatéraux.
Voilà.
Martine, vous vouliez réintervenir ?
Oui, juste en l'occurrence, le fils de la défunte est morte.
Oui.
Et c'est son fils... qui est un jeune, en fait, c'est son fils qui était donc le seul héritier.
D'accord.
Tout le monde était fils unique. Hein.
Ouais.
Donc voilà.
Et donc c'est le fils de la défunte est décédé.
Aucun frère et sœur de quelque sorte que ce soit, je veux dire.
Il n'y a pas d'ascendant, il n'y a personne.
Non, pas d'ascendant.
Mais alors dans ce cas-là, Martine, ça paraît étonnant, Martine, mais dans ce cas-là, il va falloir aller rechercher ce qui s'appelle les collatéraux ordinaires, parce qu'on a toujours des collatéraux ordinaires, c'est-à-dire des cousins, en fait, dont qui ont pour lien de parenté, en fait, on remonte jusqu'aux grands-parents. Et donc, automatiquement, on a toujours des héritiers. Ça, ce sera les cousins ici. Et malheureusement, si les cousins, on ne les trouve pas, et ben, ça sera les domaines, l'administration des domaines, c'est-à-dire l'État, qui va appréhender la succession et qui la restituera éventuellement quand un héritier se présentera.
Martine, est-ce que vous avez votre réponse ? Parce que vous m'avez l'air dubitative.
Mais oui.
Oui, ça m'a l'air un peu compliqué. La seule chose, c'est,
oui, c'est toujours
comment
compliqué.
Faire, en
mais
fait,
quel
maintenant.
Est le souci, Martine ? Quel est le problème, pardonnez-moi ? Quel est le souci ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui réclame une somme d'argent ou quel est le souci ?
En fait, la succession, c'est très simple. La succession avait été refusée.
Oui.
Parce que donc le jeune, en fait, de toute façon, c'est un... il est jeune, hein, il était même pas encore dans la vie active. Et en fait, sa grand-mère, était en maison de retraite depuis très longtemps. Et il y avait une somme de due à la maison de retraite.
Je comprends. En fait, il y avait plus de dettes, Martine. Il y avait beaucoup de dettes, c'est pour ça.
Tout à fait.
Il a pris peur et donc il avait tout à fait le droit de renoncer à la succession. Voilà.
C'est
donc,
ça.
Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si on le poursuit, il faut pour le faire payer ses dettes, il faut qu'il indique qu'il a renoncé à la succession. Et il ne sera pas tenu des dettes. En revanche, attention pour les frais funéraires. Même quand on renonce à la succession, les héritiers, on considère qu'ils sont tenus du devoir d'inhumer leurs parents. Et donc ça, il peut être poursuivi en revanche par l'entreprise de pompes funèbres pour payer les pompes funèbres.
Merci Martine, merci pour ces explications. Mais du coup, moi j'ai une question subsidiaire après celle de Martine. Est-ce qu'on découvre qu'on hérite de dettes ou est-ce qu'on le sait forcément, ce qui nous permet de refuser avant ?
Non, parce que vous n'optez pour la succession que quand vous avez quand même une idée de la succession.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez un délai pour opter ou pour l'accepter, ou pour accepter justement... Alors, vous l'acceptez parce que vous savez que tout va bien, ou vous pouvez l'accepter sous bénéfice d'inventaire. C'est après avoir vérifié qu'en fait, l'actif vous permettra, pour résumer...
Il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise, en fait, théoriquement.
Non, ça se fait effectivement chez le notaire qui va faire un état de patrimoine. Et si on s'aperçoit qu'il y a un risque que les dettes dépassent ce qu'on appelle l'actif, l'héritier peut accepter qu'à concurrence de l'actif net.
Voilà. Et, sinon,
et du coup, il ne sera pas tenu des dettes du défunt. Il ne prendra la succession qu'à concurrence, en fait, de ce qui reste.
Mais des fois, on est obligé de payer les dettes quand même. Je pense, par exemple, à quelques héritages célèbres, celui de François Sagan, par exemple. Son fils décide de prendre les dettes. Parce qu'il veut garder l'œuvre.
Ça, c'est tout à son honneur.
Voilà, parce qu'il veut garder l'œuvre.
C'est parce qu'il a accepté purement et simplement.
Et parce qu'une succession, c'est un tout. On ne peut pas dire, je prends ça, mais je ne prends pas telle chose. C'est-à-dire qu'on est accepté, c'est à prendre ou à laisser. En fait, c'est un tout. En fait, en droit français, c'est très simple. C'est comme si vous représentiez, vous preniez la place de la personne défunte sur la scène juridique. Donc, vous prenez le bon, l'actif, mais le moins bon. Donc, comme c'est tout à son honneur, il a voulu poursuivre non seulement l'œuvre de sa mère et aussi honorer ses dettes. Parce que moi, j'ai eu des cas où les héritiers disaient, on est conscient qu'il y a des dettes, mais on veut honorer la mémoire de notre père et faire en sorte qu'on ne dise pas, tiens, il est mort sans payer ses dettes.
Christophe, bonsoir.
Oui.
Bienvenue Christophe, allez-y, on vous écoute.
Tout d'abord, félicitations pour vos émissions, patati patata, j'adore vraiment vos émissions, elles sont super.
Ouais, donc, patata aussi, Christophe.
Non, parce que tout le monde vous félicite tout le temps, donc j'ai toujours l'impression, mais c'est tellement bien.
Oui, ça nous fait plaisir.
Et félicitations pour la rapidité avec laquelle vous choisissez vos sujets, si on est vraiment dans l'actualité, là, donc c'est bien. Alors, ma question est toute simple, en fait, mon fils doit acheter un projet d'achat d'appartement, et j'avais entendu dire qu'on pouvait donc léguer hors frais de succession une somme de 100 000 euros, bon, ça ira peut-être pas jusque-là pour moi, mais je crois qu'on pouvait léguer donc 100 000 euros tous les 15 ans à ses enfants, ses descendants directs.
Il y a même mieux, Christophe, parce que, bonjour, parce qu'en fait, vous pouvez effectivement, non seulement vous avez le droit de donner, il faut avoir les sous, hein, 100 000 euros complètement défiscalisés tous les 15 ans, mais 100 000 euros en ce que vous voulez, c'est-à-dire en appartement, maison et sous. Mais en plus, on a un abattement supplémentaire de 31 865 euros par parent. Et par enfant, c'est pas mal. En plus de ces 100 000 euros. Donc, si vous voulez donner de l'argent à votre fils pour l'aider à financer son appartement, vous remplissez le formulaire, ou mieux, vous allez voir votre notaire pour faire une donation de deniers, pour prendre sur ce fameux abattement de 31 000. Donc, vous n'aurez pas du tout, si ça dépasse, vous prendrez sur l'abattement de 100 000. Comme ça, si vous voulez faire dans les 15 ans une autre donation sur un appartement, vous resterez libre d'avoir l'abattement, le fameux abattement de 100 000 euros qui s'applique pour toutes les donations. Donc bien sûr, vous le pouvez.
Élodie Mulon, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, sur ce point, ça me paraît tout à fait complet.
Eh bien voilà, voilà Cyril. Bonsoir Cyril. Cyril.
Merci de prendre mon appel. J'écoute votre émission depuis 30 ans au moins et je suis très content de pouvoir intervenir une fois de temps en temps.
Allez-y Cyril, merci.
Alors ma question concerne ce que j'ai cru comprendre qui s'appelait une donation partage, c'est-à-dire qu'un parent de son vivant réunit ses, en l'occurrence, deux enfants et dit voilà, on a estimé le bien à tel prix et pour que ça appartienne en totalité à l'un des deux, l'autre paye sa part. Ça, c'est ce qui s'est passé entre ma belle-mère, ma femme et la sœur de ma femme. Il se trouve que l'estimation du bien était environ 10% de la réalité. Donc ma femme a touché en l'occurrence 30 000 euros au lieu de 300 000 il y a une dizaine d'années. La maman va bientôt disparaître et je voulais savoir dans quelle mesure c'était révocable, révisable.
Nathalie Cousigou, pour essayer de répondre à Cyril.
Alors, ce que dit Cyril, c'est très important parce que ça a donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de cassation. En fait, voilà ce qui se passe. Pour une donation partage, normalement, c'est une fois qu'elle est faite, on n'y revient plus. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est cristallisé et on ne peut plus revenir dessus.
Même si c'était 30 ans avant.
Alors, oui, mais c'est, alors attention, Cyril, il faut que ce soit sous-évalué, mais au jour de la donation partage. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ça vaut 10 fois plus, mais qu'au jour de la donation partage, c'était la véritable valeur, on ne peut plus revenir dessus. En revanche, il est évident que si, bien qu'il y ait une donation partage, la valeur a été manifestement sous-évaluée, là on peut revenir dessus.
C'est le cas.
Si c'est le cas, Cyril, là effectivement vous pouvez revenir dessus.
Élodie Mulon ?
Non, c'était juste pour savoir, il y a eu une inégalité sur le partage ou tout a été correctement fait au moment où la donation partage est...
Non, non. Au moment où la donation partage a été faite, il y a eu une sous-évaluation de l'ordre de un dixième, quoi, en gros. Hein.
Enfin, mais c'est-à-dire de moins 10% ou de moins 90%?
Non, le bien était environ 600 000 euros, et donc la moitié c'est 300 000, et mon épouse a touché 30 000. Et moyennant quoi, elle a signé.
Et pourquoi cette sous-évaluation? Est-ce que vous savez pourquoi ça a été sous-évalué? Est-ce que...
Alors, c'est une longue histoire de famille, d'accord, une histoire de la belle-mère mais qui voulait une piscine et une des deux filles qui était d'accord pour la payer sous condition de machin.
Vous êtes sûr que c'est une donation partage et pas une simple donation?
Moi, j'ai retenu à l'époque que ça s'était appelé une donation partage.
Parce que
je connais pas trop les...
Alors, on peut intégrer le conjoint survivant dans une donation partage.
Oui, mais est-ce que là, c'était vraiment... Parce que c'est extrêmement important, parce que si c'était une donation, simple donation, on peut revaloriser le bien. Aujourd'hui, il va rentrer dans la succession à la valeur actuelle. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen de revaloriser les choses comme ça.
C'est parce que...
Il y a une vraie recherche à faire.
C'est la qualification juridique, Maître Mulon a raison. Mais si c'est une donation partage, normalement, on ne revalorise pas, sauf si il est prouvé, c'est ce que vous semblez dire, si que les biens ont été manifestement sous-évalués.
Et qui décide, Nathalie Cousigou par exemple, qui peut acter, ça a été sous-évalué, donc on révise. Comment ça se passe?
Alors c'est toujours les tribunaux, mais c'est pour ça qu'on conseille aux gens d'essayer déjà une médiation. Hein. Et si la médiation ne fonctionne pas, ce sera le tribunal de grande instance qui va trancher le litige, après avoir bien sûr nommé des experts.
Allez, voilà quelques cas concrets. Bonsoir Pierre. Pierre.
Oui.
Ah, Pierre, on vous attendait. Pierre, allez-y, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci. Donc, une question très simple.
Allez-y.
Je n'ai jamais connu ma mère. Le jour où elle décédera, par quel biais je serai averti?
Et voilà une question très concrète et très claire. Élodie Mulon.
Il appartient au notaire devant lequel la succession va être ouverte de procéder à la recherche de tous les héritiers.
Oui, mais Pierre, pardonnez-moi cette question, mais est-ce que vous avez été reconnu?
Oui, j'ai été reconnue. Mes parents étaient mariés. J'ai été reconnue, tout à fait.
D'accord. Effectivement, c'est-à-dire que s'ils vont voir un notaire, parce qu'il y a des successions qui donnent pas lieu à la saisine d'un notaire, s'ils vont voir un notaire, le notaire aura l'obligation de faire des recherches, mais faut-il encore qu'il ait été informé.
Mais comment peut se faire une succession sans notaire, pardon? Pour moi, c'était forcément le passage
obligé.
Éventuellement,
parce que tout aurait été donné avant et qu'il n'y a plus rien à liquider. D'accord. Et que les comptes bancaires sont inférieurs à 5 000 euros. Ça se voit, ou que tout a été placé en assurance vie.
La succession, ce qui rend le problème moins...
Alors, s'il n'y a plus rien, effectivement, ça rend le problème moins important.
Non, parce que s'il y a eu des donations antérieures, Pierre a le droit de réclamer sur ces donations. Mais moi, j'ai eu des successions comme ça qui ne sont jamais passées chez le notaire parce que la personne s'était arrangée. Ou éventuellement, pardonnez-moi Pierre, mais en se remariant en séparation de biens et en mettant tout au nom de son conjoint pour que les héritiers n'aient rien. Moi, j'ai eu des cas de figure de ce
Et vous savez
de
si votre mère a eu des enfants ou s'est remariée?
Oui, deux enfants.
Elle a?
Elle a toujours deux enfants.
Ah ouais. Oui, donc c'est possible qu'elle ait organisé en faisant des donations partage et qu'ils vont vous léser.
Mais Pierre, en revanche, si vous étiez issu d'une union, un mariage, automatiquement le notaire aura l'obligation de vérifier si de ce mariage n'est pas issu un enfant. En revanche, si c'est une union qui n'est pas répertoriée, par exemple une union libre...
Ils étaient mariés,
vos parents, Pierre?
Oui.
Oui, donc, et divorcés après?
Tout à fait.
Donc le notaire aura l'obligation d'aller rechercher le jugement de divorce. Moi, je sais que pour ma part, c'est ce que je fais, parce que dans les jugements de divorce, on voit toujours qu'il y a des enfants, et donc vous recherchez. Mais là encore, Pierre, si un notaire est saisi.
Mais ça veut dire que Pierre lui-même ne peut faire aucune démarche de son côté, en fait, pour se prémunir contre le fait que peut-être il a été lésé ou qu'il le sera au moment du décès de sa mère.
Du vivant d'une personne, on ne peut strictement rien faire. Ce n'est qu'au décès, éventuellement, qu'on peut demander des comptes.
Il faut qu'il ait connaissance du notaire qui sera désigné pour liquider la succession.
Pierre, je vous entends vouloir ajouter quelque chose.
Oui, en fait, il peut très bien se passer que s'il ne passe pas par un notaire, que si elle a fait les choses correctement, ou moins correctement, si on l'entend comme ça, de cette façon-là, je n'hérite de rien.
C'est tout, c'est malheureusement possible, Pierre. Mais alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un notaire est saisi, maintenant, et je trouve que c'est une très bonne pratique, le notaire a l'obligation, en marge de l'extrait d'acte de naissance de la personne, donc décédée, d'indiquer qu'il a rédigé un acte de notoriété. Donc si un jour, malheureusement, vous apprenez que votre maman est décédée, vous leverez un extrait d'acte de décès et un extrait d'acte de naissance et vous verrez normalement, s'ils ont saisi un notaire, apparaître ce qui s'appelle la mention d'un acte de notoriété. Et là, il faudra tout de suite appeler ce notaire.
Les deux questions très concrètes sur franceinter.fr. Je n'ai pas d'enfant, ni de neveu, ni de nièce. Comment transmettre à d'autres sans trop payer d'impôts? Question. Nathalie Cousigou.
Enfin, là, si vous voulez, effectivement, les droits de succession, lorsque ce ne sont pas les parents en ligne descendante, sont extrêmement élevés en droit fiscal français, puisque si c'est des étrangers, c'est carrément 60% de droits sur la somme transmise après un abattement de 1594 €, c'est-à-dire quasiment rien. J'ai envie de dire, il n'y a guère que l'assurance vie, pour autant qu'on ait la possibilité d'épargner.
Parce que l'assurance vie est à part, en fait,
Attention, elle est hors succession. Dans certaines conditions sur le plan civil, c'est-à-dire vis-à-vis des co-héritiers, c'est-à-dire je peux favoriser un héritier par rapport aux autres, à la différence du droit français normalement. En revanche, il y a aussi un aspect fiscal intéressant, puisque les versements juste avant 70 ans, tous les versements qu'on fait sur un contrat d'assurance vie, les capitaux transmis sont exonérés jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc c'est déjà pas mal.
Mais alors attendez, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est pour que l'assurance vie puisse échapper à la succession, il est vraiment important, et ça c'est bien que les auditeurs l'entendent, de préciser le nom du bénéficiaire.
Ah, d'accord, tout de suite
le nom ou le genre, ou mes enfants, mais si vous ne dites rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de bénéficiaire, ce qui arrive assez rarement, mais qui peut arriver. Voilà, ça rentre dans la succession. Donc il est important et que les primes ne soient pas manifestement excessives.
Mais alors attendez, laissez-moi comprendre, parce que moi je n'ai pas d'assurance-vie, je ne sais pas très bien comment ça marche.
Notre auditeur, lui, il n'a pas d'autre héritier, il veut simplement transmettre pour que ses bénéficiaires aient le moins de droits de succession possible à payer. Il n'y a guère que l'assurance-vie dans ces cas-là.
Mais alors attendez, laissez-moi comprendre l'assurance-vie, parce que imaginez que j'ouvre une assurance-vie et je ne veux absolument pas que mes héritiers légaux, si je puis dire, touchent de l'argent. Donc est-ce que j'ai le droit de gonfler au maximum cette assurance vie, y compris d'y mettre tout l'argent que j'ai, si j'ai beaucoup de liquide, en dehors j'imagine de l'immobilier, etc., d'y mettre tout l'argent que j'ai, si bien qu'en soi mon héritage sera vide, mais mon assurance vie sera pleine, et là je pourrais la donner à qui je veux.
On pourrait considérer que c'est manifestement excessif par rapport à ses revenus, donc il y aurait sans doute un moyen de le faire revenir dans la succession, il faut que ce soit quand même
Parce que est-ce que l'assurance vie, en gros, la question c'est, est-ce que l'assurance vie est une manière de contourner l'héritage, en
gros? Oui, mais alors en partie, parce qu'en fait, on part du principe, ça paraît très compliqué en droit, c'est que de la stipulation pour autrui. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le capital qui est transmis n'a jamais transité dans la succession, mais est remis par l'assureur. Donc effectivement, en principe, c'est hors succession. Mmh. Donc on peut effectivement favoriser qui on veut au détriment des héritiers dits réservataires que sont ses enfants, ou même l'un des enfants. Mais ce que dit Maître Mulon est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement contester si les primes sont manifestement excessives par rapport à ses revenus, ou aussi, ça s'est beaucoup vu pour défaut d'aléa. Qu'est-ce que c'est que le défaut d'aléa ? Bah, c'est quoi ? C'est un monsieur, par exemple, assez âgé ou quelqu'un d'assez âgé qui, avant de décéder, met tout en assurance vie. Donc en fait, l'aléa vient que on sait très bien que c'est pas lui qui profitera, mais la personne désignée. Donc c'est un moyen de contourner.
Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On éclate l'assurance vie et on partage normalement.
Ah ben non, il faut là encore aller au tribunal parce que vous rendez bien compte que le bénéficiaire, il va pas être d'accord. Il va dire moi, je considère que c'est tout à fait valable et l'assureur va être obligé de transmettre les capitaux aux bénéficiaires et c'est les héritiers réservataires à en contester en justice en disant que les primes étaient soit manifestement exagérées par rapport au train de vie, soit pour défaut d'aléa.
En fait, il faut garder à l'esprit pourquoi est-ce qu'on considère que l'assurance vie sort de la succession ? Parce qu'en réalité, ce dont va bénéficier le bénéficiaire, c'est pas de l'argent qu'aura pris le défunt sur sa succession, mais de l'argent auquel aura droit le bénéficiaire du fait du versement des primes.
Mmh, donc ça,
effectivement, il n'y aura pas eu d'entrée dans la succession.
C'est pas de l'argent venu tout seul, c'est un argent déposé sur cette assurance vie au fil du salaire.
Du coup, donne droit à de l'argent extérieur.
Alors, cela dit, il faut dire que dans nos études, nous, on voit, c'est très bien, effectivement, pour gratifier, comme notre auditeur, des personnes, mais ça peut créer aussi beaucoup de malaise dans les successions, beaucoup de fantasmes aussi. Beaucoup de gens s'imaginent que leurs frères, sœurs, oncles ou neveux ont touché des assurances vie, parce qu'en plus, l'assureur n'a pas le droit de le révélé aux co-héritiers. Donc ça crée beaucoup de fantasmes et ça nourrit beaucoup de ressentiments dans les successions.
Est-ce que les droits de succession sont les mêmes lors d'une union pacsée ou une union de mariage, nous demande cet auditeur sur franceinter.fr.
Oui. Alors, attention, il faut bien se rappeler qu'on n'hérite pas automatiquement de son partenaire pacsé. C'est-à-dire qu'il faut faire un testament pour que son partenaire pacsé hérite. En revanche, les droits de succession sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que lorsque le conjoint survivant ou le pacsé hérite, eh bien, il ne paye aucun droit de succession à l'État.
Encore une question très concrète. Que se passe-t-il au moment de la succession s'il y a eu des donations de montants différents entre enfants du vivant de la personne décédée ? Est-ce que le montant d'origine est remis dans la balance ou est-ce que c'est à la valeur d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors,
si les donations du vivant ont été différenciées en fonction des enfants.
Alors, on parle des enfants, donc les enfants réservataires. D'accord. Les donations vont être rapportées à la succession, mais à la valeur au jour du décès.
D'accord.
Alors, contrairement aux donations contrairement aux donations partage, qui sont remis dans la succession, mais au jour de la donation partage. Donc, si jamais vous avez reçu un crayon qui valait 10 000 et qu'il vaut 100 au jour de la succession, il sera compté à hauteur de 100 dans la réserve. Donc, si jamais ça dépassait la réserve, à ce moment-là, il y aurait la quotité disponible, il y aurait une action
ça va,
en réduction.
Ça va même plus loin, parce qu'imaginez qu'un père de famille a fait deux donations, il avait la chance d'avoir deux appartements, fils.
Imaginons
qu'il ait donné à Pierre un appartement qui valait 300 000 francs, et à l'autre, quelques mois après, un autre appartement qui valait 300 000 francs. Donc au moment des donations, les deux appartements valaient le même prix. Sauf que comme ils ne sont pas dans les mêmes villes, il y en a un qui a grimpé, qui vaut trois fois plus, et l'autre qui est resté stagnant. Et bien celui dont l'appartement au décès vaut trois fois plus, devra donner la moitié de la plus-value à l'autre. Donc, tout ça, les gens tombent des nues. Alors, ce n'est pas fiscal, ce qu'on vous dit, parce que fiscalement, il n'y a aucun retour de manivelle.
Tombent des nues et vendent, j'imagine, dans la plupart des cas. Parce que comment on fait ?
C'est ce que disait Maître Mulon, la voie royale, c'est la donation partage. Parce que ce monsieur, ce père de famille, aurait dit, bah voilà mes deux chéris, j'ai deux appartements, je vous donne la même chose aujourd'hui par donation partage. Quelle que soit l'évolution ultérieure, on n'en parle plus. C'est la donation partage qui est la voie royale, dès lors, pour pas que ce soit comme Cyril, que les valeurs aient bien été évaluer.
Alors, la question de Gérard qu'on écoute maintenant au 01 45 24 7000, on jongle entre deux pays et c'est ça qui est intéressant. Allez-y Gérard.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous
écoute. Oui, bonsoir. Donc, j'étais marié avec une Allemande, nous nous sommes divorcés, mes deux enfants sont nés de pères français en territoire français, donc ils sont français. La mère de mes enfants a des biens en France, elle a des biens en Allemagne. J'ai bien lu le droit civil allemand qui est très proche du droit civil français.
Tout à fait.
Par contre, je n'ai pas... Ma question est la suivante. Puisqu'il y a des biens en France, qu'il y a des biens en Allemagne, lequel des deux droits civils prévaudra ?
Ah.
Question concrète, alors, Gérard, allez-y.
Alors là, Gérard, la France, maintenant, a ratifié le règlement succession, tout comme l'Allemagne, qui est entrée en application en France pour les successions ouvertes à partir du 17 août 2015. Ça veut dire que si, malheureusement, votre épouse décède, il faudra savoir le droit qui va prévaloir, le droit civil qui va prévaloir, c'est la loi de la résidence habituelle de votre épouse. Donc, si au moment de son décès, elle résidait en Allemagne de façon durable, ça sera le droit allemand qui régira la succession. Si en revanche son domicile c'était la France, ça sera la loi française.
Et domicile, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de jours?
Alors c'est plus la loi de ses principaux intérêts.
Parce que je vous pose la question parce que c'est ce qui se passe dans l'affaire Johnny en ce moment.
Bien sûr,
la résidence,
c'est
les intérêts.
C'est la résidence, c'est les intérêts,
c'est
l'intention.
C'est les raisons aussi pour lesquelles on s'est installé dans le pays. Les conditions d'installation, la durée, le degré de stabilité.
Ah, c'est pas que un nombre de jours en fait.
Et non, c'est pas qu'un fiscal. En droit californien, c'est pareil. La notion de domicile, c'est non seulement, pour répondre à votre question, y résider effectivement, mais avec l'intention durable d'y rester définitivement.
C'est très difficile à prouver.
C'est très difficile. Donc, dans le cas dont je ne vois pas de quoi vous voulez dire, comme on dirait l'autre, eh bien, il va y avoir un véritable sujet sur la résidence habituelle, selon que ce sera le droit français ou le droit californien.
Parce que la loi californienne ne s'appliquera pas nécessairement. Enfin, on entend beaucoup parler de la loi californienne et
la loi californienne, c'est-à-dire qu'elle dit que c'est pour les immeubles, pour autant qu'il y en ait, c'est la loi du désir. Mais voyez, la loi californienne est très libre, c'est-à-dire qu'on peut léguer à qui on veut. En droit français.
C'est la loi californienne d'ailleurs ou la loi américaine?
Californienne,
donc c'est encore plus compliqué.
En fait, c'est fédéral.
Oui, oui.
Donc c'est la loi californienne, mais ils ont à peu près les mêmes principes. Sauf que, voyez, c'est l'une des suprématies du droit français et d'ailleurs des droits autres que ce qu'on appelle la common law, c'est-à-dire des droits anglo-saxons, c'est qu'il y a beaucoup moins de conflits, j'ai envie de dire, dans nos systèmes juridiques, parce que justement il y a cette réserve. Tandis que dans les pays aux États-Unis et en Angleterre, il est prouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de contestations sur les successions, justement parce que les gens n'ont rien à perdre.
Intégralement,
on peut déshériter, ils n'ont rien à perdre. Tandis que dans nos pays de droit écrit, qui sont quand même, je le précise, 60% du globe, hein, contrairement à ce qu'on peut dire, eh bien, c'est beaucoup plus serein parce que, même si ça peut choquer, mais l'héritier a quand même un droit acquis, donc il a moins intérêt à aller à la succession parce qu'il a déjà quelque chose de par sa réserve.
Florence, bonsoir. Florence.
Ah, bonsoir mesdames.
Allez-y.
Allô.
Allez-y,
bonsoir,
allez-y, on vous écoute.
Merci pour votre émission et pour vos. écoutez, voilà, moi, c'est dans le cadre d'une succession, c'est mon cas personnel. Donc mon père est décédé il y a quelques mois. J'ai appris sa mort tout à fait par hasard.
Ah, mon Dieu.
15 jours après son décès. Ouais. Donc je n'ai ni pu assister à son enterrement ni rien. Voilà, mes parents étaient divorcés. Mon père était remarié depuis quelques années. Et sa nouvelle femme a tout fait pour m'écarter de la vie de mon père, de tout. Donc maintenant, je voulais avoir un peu vos conseils parce que je ne sais rien de la vie, de ce que mon père avait comme bien, comme assurance vie, comme rien. Donc,
et vous ne savez pas s'il y a eu passage chez le notaire? Parce que du coup, j'ai bien appris ce qu'on m'a appris aujourd'hui. Vous ne savez pas s'il y a eu passage chez le notaire ou pas?
Conseil, puisque apparemment je ne veux pas ouvrir la succession.
Et voilà, c'est intéressant ce que dit Florence. Elle ne veut pas ouvrir la succession, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun intérêt à aller voir le notaire, bien sûr.
Mais j'ai essayé de voir par moi-même au tribunal, à divers endroits. Apparemment, aucun notaire n'a été désigné encore. Donc, je ne sais pas comment faire. Je suis un peu coincée. Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir vos conseils.
Florence, aucun notaire ne sera désigné. Le tribunal ne désigne aucun notaire.
Non. C'est-à-dire que c'est spontané. C'est comme ça. Ah, okay.
Et non.
D'accord.
Et non, c'est spontané. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que votre belle-mère se rende chez le notaire. Oui. Mais si elle n'en a pas la nécessité, peut-être que les biens sont à son nom après avoir rédigé un contrat de séparation de biens. C'est peut-être pour ça. Parce que lorsqu'une personne décède, tous ses comptes bancaires à son nom, normalement, sont bloqués. La banque a l'obligation de bloquer. Donc, votre belle-mère, pour les faire débloquer, aurait dû aller voir un notaire. Donc, si elle n'est pas allée voir un notaire, c'est peut-être qu'elle n'avait pas besoin de ses sous, peut-être parce qu'elle en avait suffisamment sur ses comptes, ou peut-être que le deuil, après tout, on peut supposer qu'elle a du chagrin, le deuil l'a étreint, elle n'a pas encore saisi un notaire.
Ça fait combien de temps?
15 jours, elle a dit.
15 jours?
Un peu plus que ça, quelques mois.
D'accord.
Mais moi, je l'ai appris 15 jours après, ou 3 semaines après le décès. Mais par contre, j'ai appris aussi que mon père avait été sous tutelle. Il a eu un AVC apparemment, c'est ce que j'ai compris en cherchant à droite à gauche des informations, que mon père était sous tutelle suite à un AVC. Donc c'est-à-dire qu'il n'était plus en possession de ses moyens, il me semble.
Et donc de ses biens.
Alors là, ça peut être un biais parce que vous pouvez demander au greffe des tutelles d'avoir comme... un état de la reddition des comptes, ouais. Effectivement.
Qu'est-ce qui était désigné comme tuteur, vous savez, c'était votre
femme.
Belle-mère.
Sa femme. Mais oui.
Et vous avez des frères et sœurs ou...
Non, je suis son enfant unique.
Ah oui.
Je pense que le mieux, c'est d'aller effectivement au greffe du tribunal d'instance pour demander justement les éléments sur la tutelle et ce qui vous permet d'avoir des éléments.
Ouais. D'accord. Mais dans le cas, comment? Parce que est-ce qu'il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé suite à sa tutelle. Est-ce qu'elle a pu lui faire signer des papiers?
Était sous tutelle, il ne pouvait pas signer de papier, Florence, sans l'accord du juge des tutelles. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est presque une sécurité qu'il ait été mis sous tutelle puisque ça a sûrement évité des actes inconsidérés. Mais ça, Maître Mulon a raison, il faut aller au greffe du tribunal d'instance du lieu de son résident, prouver que vous êtes sa fille, c'est-à-dire parce qu'on ne donne pas n'importe qui.
Bien sûr.
Et puis, vous aurez accès au compte de tutelle pour vérifier ce qui a été fait.
D'accord, mais dans le cas où, parce qu'il me faut un acte de notoriété pour aller aux impôts, pour voir s'il y a quelque chose, je ne sais absolument rien de la vie de mon père, c'est-à-dire que j'ai été littéralement coupée de lui. C'est vraiment très très dur parce que je ne sais absolument rien de sa vie.
Votre première, voilà. Là, c'est vraiment compliqué de vous répondre en
oui,
direct.
Oui, j'ai bien compris.
Comme ça, mais la première démarche que vous ayez à faire en urgence, c'est d'aller au greffe du tribunal d'instance.
Et Florence,
ils me demanderont pas d'acte notarié.
Non, mais Florence, demandez un certificat d'hérédité à la mairie.
Ah, un certificat d'hérédité à la mairie de son domicile.
Oui, exactement.
Allez, Florence,
d'accord.
C'est avec vous
d'accord,
qu'on...
Merci beaucoup.
Je vous en
beaucoup.
Prie, c'est avec vous qu'on termine. Et j'espère que, je pense qu'on a pu être utile pour vous et pour d'autres aussi autour de cette table. Merci beaucoup.